Radio Okapi. Le journal présenté par Lievin Mbwinga.
Bonjour à tous. D'abord les titres. Est-ce la fin de la crise dans le secteur de transport privé public à Kinshasa? En tout cas, la première ministre a échangé hier lundi avec les ministres concernés par le secteur de transport ainsi que les autorités de la ville-province de la capitale. Le cas de la grève des agents de la société Transco, censée transporter les Quinois, a aussi été examiné. La rencontre fait suite, vous le savez, à la paralysie observée hier lundi suite au mouvement de grève des opérateurs privés du secteur de transport en commun. Kisangani dans la fièvre des préparatifs de la commémoration de la première journée d'anniversaire du génocide, le génocide congolais. Ça sera le 2 août prochain. Le chef de l'État ainsi que différents délégués sociopolitiques en provenance d'autres provinces du pays sont attendus. Dans ce journal, nous allons tout savoir sur ce terme génocide, son objectif et surtout ce qui se passe concrètement sur le terrain. Notre invité, c'est Isenge Ushindi, auteur du livre « Nous avons un pays à sauver ». Dans cet ouvrage d'environ 155 pages, il nous parle de l'état piteux que traverse la RDC, notamment sur le plan sécuritaire, économique, social et politique. Et il propose en même temps quelques remèdes aux Congolais, notamment la prise de conscience de son avenir. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonjour. Est-ce la fin de la crise dans le secteur de transport privé et public à Kinshasa? En tout cas, la première ministre a échangé hier lundi avec les ministres concernés par le secteur de transport ainsi que les autorités de la ville-province de Kinshasa. Le cas de la grève des agents de la société Transco, censée transporter les Quinois, a aussi été examiné. Des mètres cubes de carburant, par exemple, ont été mis à la disposition de cette société pour la soulager. Cette rencontre fait suite, vous le savez, à la paralysie observée hier lundi suite au mouvement de grève des opérateurs privés du secteur de transport en commun. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, donne les grandes lignes de cette réunion.
C'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée, parce qu'il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés, mais vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment ce qui concerne l'attitude du comité de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions seront prises à ces propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée et que 2 mois d'arriérés observés à ce niveau-là seront apurés.
Et puis, désolation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa au cours de cette réunion de crise. Daniel Bumba a regretté que les transporteurs n'aient pas donné un préavis de grève malgré le cadre de concertation qui existe entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Mais il a rassuré la première ministre, des mesures sont prises pour que tout rentre dans l'ordre, a-t-il déclaré. On écoute le gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
Il était question de brosser la situation, comme cela s'est relevé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vend dans les secteurs du transport urbain. Nous avons instruit la police, commis à notre responsabilité, de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incisme qui se marquaient déjà, mais aussi l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de transport. Cette mission-là ne concerne que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix.
Les propos de Daniel Bumba et Patrick Muyaya ont été recueillis par la cellule de communication de la primature. Toujours pas de bureau définitif au Sénat. Deux mois après son ouverture, il y a eu report de l'élection des membres de son bureau prévu pour le samedi 3 août. Cette élection est reportée au mercredi 7 août prochain. Le bureau provisoire du Sénat qui a annoncé ce report sur son compte X n'a avancé aucune raison de ce report. Conséquence, l'opération de dépôt des candidatures qui devrait avoir lieu ce lundi est renvoyée au vendredi 2 août. Dans la province de la Tchopo, la ville de Kisangani se prépare à accueillir le chef de l'État ainsi que différents délégués sociopolitiques en provenance d'autres provinces du pays. Ceci pour participer à la commémoration de la première journée d'anniversaire national du génocide, le génocide congolais, le 2 août prochain. Cette option avait été levée au cours du Conseil des ministres du 12 juillet, présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Quel est l'objectif poursuivi par le génocide et comment vont les préparatifs sur terrain, lesquels sont supervisés par le FONAREF, le Fonds national de réparation des victimes? Réponse dans ce reportage de Jacques Moukonkole.
La cour de la mairie s'est transformée en un vaste chantier. Des bruits de ferrailleurs, des soudeurs et autres coups de marteau se font entendre sans désemparer. Il s'agit là de l'ambiance des préparatifs de la commémoration du génocide. Un grand hangar décoré aux couleurs nationales y est déjà érigé. Des huttes en paille symbolisant les différentes provinces du pays sont en construction dans le jardin de cette institution. Certaines grandes artères de la ville passant par là reçoivent actuellement des coups de pinceau aux couleurs vives. Le 2 août, date du début de l'envahissement de la RDC par des troupes étrangères, doit être célébré en souvenir de millions de compatriotes victimes de l'insécurité, déclare Madame Sylvine Dzbo-Lotsov, membre de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et appui aux réformes.
Gardez en tête que nous devons favoriser la paix. Nous devons nous battre pour que la paix, la cohésion nationale puisse rester le cerveau moteur de la République.
Madame Sylvie Lotov rappelle que le FONAREV a été créé pour arriver à atténuer un tant soit peu la souffrance des victimes des atrocités par des indemnisations aussi bien individuelles que collectives. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Sachez que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, séjourne depuis dimanche soir à Kisangani pour préparer justement cette journée du génocide. Trois morts, plusieurs blessés et plus de 150 maisons incendiées. C'est le bilan provisoire établi par la société civile de l'incursion de la milice Bitonto dans la matinée de lundi au village Tumbwe, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. Les détails avec Paulin Munanga.
Des témoins rapportent que c'est vers 5h du matin de ce lundi que la milice Bitonto a fait incursion au village Tumbwe. Les assaillants étaient munis d'armes à feu et de flèches. Notons parmi les trois morts, un militaire des FARDC tué par balle, une femme qui a succombé après avoir été touchée par une flèche, et un milicien, indique la nouvelle dynamique de la société civile du Tanganyika. Le vice-président de cette structure qui s'est rendu sur les lieux de l'incident déplore le fait qu'apart les maisons du village, des camps de déplacés se trouvant dans les environs sont incendiés. Il signale un déplacement massif de la population et demande aux autorités de renforcer la sécurité dans la zone. Chirac Issa.
Et il y a des cas de déplacés qui ont été brûlés. Nous appelons aussi aux ONG humanitaires de venir en aide, surtout aux déplacés. Il y a les villageois qui quittent ce village en passant par Kassabala qui regagnent la ville ici. Le village est vidé, à part le chef et quelques personnes entourées autour du chef qui restent là. Ce que nous pouvons dire en tant que société civile est que le gouvernement renforce les dispositifs sécuritaires au niveau du village Tumbwe.
L'administrateur du territoire de Kalemi signale que les FARDC sont intervenus pour rétablir la sécurité à Tumbwe et ses environs. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Justice, peine capitale requise contre Corneille Nanga et consorts. Le ministère public a fait ses réquisitoires au procès de 25 prévenus, dont le nombre passe désormais à 26, avec l'ajout d'un colonel du nom de Kazarama. C'était au cours de l'audience publique hier lundi à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Les parties civiles, la République, ont plaidé pour une réparation du préjudice subi évalué à 1 milliard de dollars américains à convertir en francs congolais. Elles estiment que des écoles et hôpitaux ont été détruits, des populations paupérisées et l'image de la RDC a été écornée par la guerre de l'Est à cause de Corneille Nangaa et le M23. L'affaire a été prise en délibéré pour ces deux prestations en attendant les plaidoiries de la défense ce mardi. Reportage Jeff Ngoy.
Outre la peine de mort la plus forte, le ministère public requiert que soit ordonnée l'arrestation immédiate des prévenus défaillants. Il demande au juge de reconnaître coupables de trahison tous les prévenus congolais, de déclarer établis en fait et en droit les préventions de participation à un mouvement insurrectionnel, de trahison et de crimes de guerre par meurtre, viol, pillage et destruction méchante. De tous les 5 prévenus présents, seul l'oncle de Corneille Nangaa, Jean-Rutens Basséyane Nangaa, devra écoper de 20 ans de servitude pénale principale pour trahison. Selon l'auditeur supérieur militaire, pour avoir aidé financièrement son neveu à partir de Kinshasa. Il requiert également la confiscation de tous les biens matériels du chef de l'AFC et de son épouse déjà placée sous séquestre.
Le tissu économique dans la partie est du pays en proie à l'insécurité grandissante. Cette détérioration de la situation économique a déjà entraîné la fermeture de plusieurs entreprises avec comme conséquence immédiate la perte de certains emplois. Face à cette situation, le président Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement lors du Conseil des ministres de vendredi dernier de proposer des allègements fiscaux et autres facilités à accorder aux entreprises évoluant dans les provinces sous état de siège. En réaction, les opérateurs du Nord Kivu saluent la promptitude du chef de l'État. Ils espèrent que cela pourra atténuer les effets néfastes de cette guerre sur la vie des populations meurtries. David Katumbi, l'un d'eux, est ici au micro de Denise Lukeso.
L'Est est confronté à plusieurs difficultés, surtout en rapport avec le long séjour de rébellion dans la partie orientale de notre pays. Ce que nous allons demander d'emblée, c'est de nous mettre d'abord au travail, c'est-à-dire le syndicat des opérateurs économiques FEC, FENAPEC et COPEMECO. On doit se mettre rapidement au travail pour confectionner un cahier des charges, puisque ce qui pèse sur nous, ce sont deux fiscalités. Vous avez la fiscalité et la parafiscalité. Vous avez la fiscalité nationale et la fiscalité provinciale. Et ensuite, la parafiscalité, c'est-à-dire ce qui est prélevé par les services d'assiette accompagnés de la DGRAD. Donc, nous devons nous mettre au travail pour qu'on puisse un peu assouplir compte tenu des rayons d'action dans lesquels nous travaillons. Ça peut quand même résoudre tant soit peu le problème qui pèse sur nous, nous les opérateurs économiques qui travaillons dans ces conditions beaucoup plus difficiles et ça fait déjà au moins 3 décennies.
À Matadi, au Congo central, les violons ne s'accordent pas entre les ayants droit coutumiers et le responsable de l'OEBK, pomme de discorde, les terres situées aux alentours du pont Maréchal. Les ayants droit coutumiers qui affirment avoir donné à l'OEBK uniquement la route et l'endroit où est érigé le pont Maréchal accusent le directeur de l'OEBK de s'accaparer et de vendre illicitement ces terres. Dans une interview accordée à Radio Capi, Jean-Pierre Longo-Sita, secrétaire provincial des chefs coutumiers de la province du Congo central, accuse cette entreprise de la vente ces jours-ci aux Kenyans d'un espace à côté du fleuve pour la construction d'un quai. Il demande aux autorités de se pencher sur ce conflit foncier qui a beaucoup duré. Jean-Pierre Longo-Sita est au micro de Nana Plurich Mambou.
La terre de l'OEBK, c'est une terre coutumière qui a été remise à l'État pour construire le pont Maréchal. C'est sur demande de Japonais. Il y a un document du directeur de projet japonais qui avait sollicité qu'on puisse lui accorder la poche de terre où il devait déposer ses matériels de travail. Et il a dit dans sa correspondance qu'aussitôt le travaux terminé, il remettra la terre aux ayants. Il y a un document qui existe pour protéger le pont, c'est-à-dire 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite. Le reste revient aux ayants droit. Que nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? On fait louer des terres aux Chinois, aux particuliers, pour que ces gens fassent leur quai. L'argent, en principe, devait venir aux ayants droit. Puisque c'est dans la partie des ayants droit. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ça va toujours à l'OEBK. Récemment ici, il y a des Kenyans qui sont arrivés pour solliciter la portion de terre. Ils ont versé de l'argent. Nous déplorons le comportement du responsable de l'OEBK.
Au cours d'un point de presse animé le week-end dernier à Matadi, le directeur général de l'Organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa, Jean-Claude Mavambou, a affirmé que ces terres appartiennent à l'OEBK et sont couvertes par un certificat d'enregistrement concernant la vente aux Kenyans dont parlent les ayants droit. Jean-Claude Mavambou précise que les dispositions réglementaires en vigueur permettent à l'entreprise qu'il dirige de donner en location des terres sous contrôle pour une durée déterminée allant jusqu'à 25 ans, cela pour un usage bien justifié et pour l'intérêt de la RDC.
Actualité internationale.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié plusieurs journalistes, dont Omar Radi, en rapport donc avec la fête du trône célébrée ce mardi et marquant son intronisation il y a 25 ans. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié des milliers de personnes, dont trois journalistes emprisonnés, Omar Radi, Souleymane Raissanoui et Taoufik Bouchrine. Ces journalistes étaient emprisonnés ou poursuivis par la justice depuis plusieurs années. Au Maroc, connu pour leur critique du pouvoir, ces chevaliers de la plume avaient rejeté les accusations d'agression sexuelle retenues contre eux, estimant qu'il s'agissait d'une manière de les punir à cause de leurs opinions.
L'invité.
Notre invité, c'est Isengeki Ushindi, auteur du livre « Nous avons un pays à sauver ». Dans cet ouvrage d'environ 155 pages, il parle de l'état piteux que traverse la RDC, notamment sur le plan sécuritaire, économique, social et politique. Pour lui, il est impérieux que les Congolais prennent conscience de leur avenir et mettent leurs forces ensemble pour sauver leur pays. Cela en mettant de côté la discrimination, le tribalisme et les conflits inutiles. Isengeki Ushindi s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur Isengeki Ushindi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier justement ce livre intitulé « Nous avons un pays à changer ». Qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger ce livre ?
Le livre s'intitule « Nous avons un pays à sauver ».
Lequel ?
Quand vous voyez la couverture du livre, ça intitule clairement que c'est la RDC qu'on doit sauver. Et à voir ce qui se passe dans ces pays, on n'a pas besoin d'une paire de lunettes comme la mienne pour voir que le pays a réellement besoin d'être sauvé.
Alors, qu'est-ce qui justifie la rédaction de cet ouvrage, surtout en cette période ?
Ce livre n'est pas parti de ce qui se passe actuellement nécessairement dans ces pays, mais il retrace un bon nombre de situations qui expliquent certaines choses qui se passent dans ces pays. Parce qu'il y a des choses qui s'expliquent par le fait que, avoyant telle condition et tel traitement, il y a un certain nombre de probabilités qu'il y ait certaines réactions populaires. Donc, ce livre, oui, il tombe à point nommé. Et ce qui se passe dans ces pays, quand on parle de l'agression, des rébellions par-ci, par-là, ces rébellions, ces agressions sont des expressions de certains malaises. Mais s'ils n'ont pas été jugulés au départ, il est possible, il n'est pas encore trop tard pour le contenir. Mais si rien ne fait, la situation aujourd'hui est déjà inacceptable. Mais si nous ne faisons rien, alors nous allons atteindre la barre de l'irréparable.
Quand vous dites que l'idée de publier ces livres n'est pas liée au contexte actuel que nous vivons, alors d'où vous est venue l'inspiration ?
En fait, aujourd'hui, la situation est juste montée au créneau. Donc aujourd'hui, ça parle plus fort. Mais ce malaise a existé depuis très longtemps. Quand vous comptez 30 ans, ça fait que je suis né dans la guerre et je grandis dans la guerre. Donc si c'est pas dans ma ville, c'est dans la ville voisine. Dans mon parcours, dans celui de ceux de ma génération, il y a non seulement du traumatisme, mais si rien n'est fait, alors on ne saura plus remplacer les livres, les armes par les livres dans les mains des jeunes gens.
Quand vous dites justement que la situation dans laquelle se trouve, c'est lié aux malaises qui ont persisté, est-ce que selon vous, cela justifie le défoulement, les rébellions que nous connaissons aujourd'hui ?
Ça ne justifie pas, ça peut à un niveau les expliquer. C'est pratiquement une répétition de l'histoire. Rien ne fait. Si on ne prend pas conscience du problème qui nous ronge, comme le disait Stein, faire la même chose et attendre des résultats différents, c'est la définition de la folie. Alors, j'aimerais bien adresser ce livre d'abord à la jeunesse congolaise, mais à toute la population congolaise en général.
Pourquoi vous aviez voulu employer le concept général au lieu de commencer par la province, au lieu de commencer par exemple par « Nous avons une province à changer », qu'est l'Ituri ?
les provinces ne font que partie du pays.
Mais les situations ne sont pas les mêmes. On a tendance même à dire que la situation de l'Ituri n'est pas celle du Nord Kivu voisin.
L'habit que les problèmes portent ne sont pas similaires. Dans les résultats, il y a mort d'hommes, il y a déplacement de population, il y a détournement de fonds. Et comme je le dis dans ce livre, citant l'ancien président Jerry Rawlings, c'est que plus, si on passe beaucoup de temps à côté de la poubelle, à un moment donné, le cerveau s'adapte et pense que ouais, c'est comme ça que le monde pue. Mais le monde ne pue pas comme ça. Il est possible de voir un Congo plus beau qu'avant, comme on le chante.
Dans ces livres, vous adressez justement à des milliers de Congolais qui, hein, vous le savez, traversent des moments vraiment très, très difficiles en raison de la guerre. Alors, que proposeriez-vous pour un changement des sociétés justes, honnêtes, travailleuses pour le développement du pays?
Je crois qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. Je fais une sorte de métaphore avec le système d'exploitation informatique. Si le système d'exploitation qui fait fonctionner le cerveau congolais est corrompu, il faut pratiquement formater. On ne peut pas appeler à se battre tout le jour. Et c'est comme ça que je propose la création de la nation congolaise. On a déjà l'État congolais, avec la structure, le territoire et tout. Mais la nation implique les sentiments d'appartenance, ces sentiments de dire « je suis d'abord Congolais avant d'être de l'Ituri, de Tchopo, de quelle province ?»
Isenge Kiushinzi, merci.
Merci à vous.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à Jude Mister Bilanda et à Pierre Diassinois.